Du coup, la conférence sur Activity Pub, c'est un truc nouveau, assez sympathique, dont je voulais vous parler. Et donc, voilà, qui va notamment répondre au moins partiellement à la question comment réparer les médias sociaux qui sont un petit peu mal en point aujourd'hui. Alors j'avoue, pour préparer cette mini conférence, j'ai un petit peu de mal à... Ah, il y a un énorme bruit dehors. J'ai eu un petit mal à choisir un plan, et puis après je suis allé sur le site du KHSF et j'ai regardé l'édito et j'ai trouvé en fait le fil rouge du KHSF de cette année. C'est le principe même de communication du et des langages et de leur appropriation pour la création de communs. Du coup, j'ai trouvé ça sympa. Alors je l'ai pris, je l'ai coupé en quatre et j'en ai fait mon plan. Donc voilà, donc je vais commencer par vous parler de communication, après je vais vous parler de langage, après je vais vous parler de comment on s'approprie tout ça, et je vais vous parler un petit peu de commun pour rejoindre avec ce que on voit vraiment pas bien
sur la lentille.
C'est un truc que
j'ai. Ok. Alors moi, quand je vois quelqu'un sur Facebook, hein, donc il y a un outil qui permet de communiquer. Mais c'est vrai que je suis, quand je vois genre, peut-être pendant plus d'une heure en train de scroller sur son fil d'actualité, je me dis que c'est bien quand même de s'interroger sur ce que c'est la communication et est-ce que les outils qu'on utilise pour ça aujourd'hui le font bien. Et là, je me dis que c'est peut-être pas le cas. Aujourd'hui, les médias sociaux, les plus connus, la communication est largement altérée par tout un tas de choses, notamment par du bruit. Alors je parle de bruit au sens sens de l'information. Donc tout ce qui va altérer l'information qui va jusqu'à ce qu'elle arrive à quelqu'un qui la reçoit. Donc voilà, il y a des. Alors je sais pas trop comment c'est aujourd'hui parce que ça fait un moment que je ne suis pas retourné sur Facebook, mais il y a des publicités ciblées à gauche, à droite, il y a aussi des contenus sponsorisés on a notre timeline, notre fil d'actualité, et on tombe sur un contenu, en fait on pense que c'est notre ami qui écrit quelque chose, et en fait non, c'est un contenu sponsorisé, bim, qui nous arrive dessus. Donc voilà, tout ça c'est du bruit qui vient compromettre l'information. On a aussi du filtrage, d'une part avec la censure, depuis pas mal de temps, il y a de la censure qui est appliquée bien sûr sur les médias sociaux et même de manière automatique par des robots qui viennent reconnaître des images, des fois ils se trompent. Filtrage aussi dû au fait que les médias sociaux effectuent en fait utilisent un algorithme de classement des contenus. Et ça, en fait, on s'en rend pas compte, mais c'est... en fait, on donne énormément de pouvoir aux médias sociaux si on ne connaît pas la façon dont était classé le contenu. Aujourd'hui, c'est assez courant que quelqu'un sur Facebook puisse avoir, par exemple, 300 amis. Or, il ne peut pas lire, en fait, l'intégralité des posts de ses 300 amis. Du coup... Peut-être qu'il va en voir, je sais pas, admettons 10% s'il a une consommation, je veux dire, assez raisonnable des médias sociaux. Et ben voilà, si il en voit 10%, il va par exemple regarder les 10 premiers pourcents des contenus que lui propose Facebook. Et à partir de là, il y a un filtrage. Et en fonction de comment Facebook affiche affiche les résultats, ce qu'il affiche en premier ou non, non seulement du coup le contenu sera filtré, mais aussi ça va permettre la manipulation, parce que quelqu'un peut être, si on lui présente par exemple uniquement des contenus qui sont écrits par des personnes qui ont par exemple telle ambition politique, et ben sans s'en rendre compte, la personne qui utilise le média social et ben va peut-être pouvoir évoluer dans son esprit. Et ça, ce sera de manière très très subtile pour elle, parce que ça sera que des contenus qui sont rédigés par des amis. Donc elle va pouvoir se dire oui, mais de toute façon, c'est pas Facebook qui me dit ça, c'est mes amis qui me le disent. Or non. Il peut y avoir de la manipulation là-dedans, et ça s'est vérifié il y a pas très longtemps avec les élections présidentielles qu'il peut y avoir un petit peu de magouille derrière tout ça. Et enfin, manipulation au niveau de l'interface, parce que en fait, il faut considérer que l'interface des médias sociaux, c'est une interface qui n'a pas été. Enfin, le but premier de l'interface, c'est pas de répondre aux besoins de l'utilisateur. Le but premier, c'est de répondre aux besoins de l'entreprise. L'entreprise, son objectif, c'est d'amasser de l'argent. Et du coup, par rapport à ça, il y a des personnes, des chercheurs chez Facebook qui vont étudier en fait par quel moyen le plus efficace on peut par exemple captiver l'utilisateur sur le réseau et essayer de faire en sorte qu'il y reste le plus de temps possible, ou de manière plus générale, comment exploiter son temps de cerveau disponible. Alors, le mot tout en haut, je crois que c'est...
Ne rien faire.
J'en sais un. De quoi ?
Ne rien faire.
Non, il y a encore un truc tout en haut.
Alors, solution.
Connexion. Oui, c'est la solution. Ouais, c'est les solutions. Bien vu, bravo, tu as un bon point. Les solutions. Donc, on ne peut, par exemple, rien faire. Ce que je trouve ça un petit peu dommage vis-à-vis de tout ce que ça implique sur non seulement au niveau personnel, mais au niveau sociétal, parce que on parle vraiment des phénomènes de masse. Sur Facebook, tous les billets nocifs, c'est la surveillance de masse, c'est la manipulation de masse. Donc c'est vraiment pas au niveau individuel, c'est au niveau de toute la société à l'échelle mondiale. Donc c'est quand même assez important. Pour s'en inquiéter. Deuxième solution, ne pas utiliser les médias sociaux. Ça, c'est j'ai plein d'amis qui n'utilisent pas les médias sociaux, qui se portent très bien. Pourquoi pas. Et enfin, on peut se pencher sur l'utilisation de médias sociaux alternatifs, ce qui est ce sur quoi moi je m'intéresse. Et à ce moment-là, il faut la première question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux faire confiance à ce média social ? En fait, moi je vous dirais ne faites confiance à personne. On a environ, tous les deux ans, il y a une nouvelle start-up qui arrive comme ça, qui met plein d'argent sur la com et le marketing en disant regardez, on est là, on a créé un nouveau réseau social, une alternative à Facebook, nous on est des gentils, vous inquiétez pas, faites-nous confiance, on va respecter vos vies privées. Bon, on a... effectivement, quand on regarde tous les usages un peu nocifs que font les médias sociaux, on se dit mollo, qu'est-ce qui nous prouve que vous allez faire des choses bien, etc. En fait, du moment que c'est un service centralisé, c'est-à-dire qu'il va y avoir une seule personne, une seule entité qui va contrôler le média social, on a absolument aucune garantie. Et ça, même, ça peut être même à l'insu du média social, il peut avoir toute la bonne volonté. On a aujourd'hui des gouvernements et des organismes de surveillance qui viennent essayer d'exploiter ces médias sociaux pour récupérer des informations qui sont très très précieuses. Donc, dans l'idée, il faut se pencher sur... il faut essayer de penser autrement que en raisonnant par un organisme central. Du coup, une solution, c'est de se pencher sur un organisme un peu plus distribué, avec au lieu d'avoir un seul gros silo à données personnelles. Donc le seul moyen de combattre ça, c'est de faire des silos à données plus petits. Parce que de toute façon, un média social, ça va être, par essence, il va y avoir des données personnelles dedans. On va raconter ce qu'on fait en ce moment et tout ça. Donc l'idée, c'est de faire des morceaux plus petits pour que voilà, si un gouvernement veut analyser ça, ça va être plus fastidieux pour lui parce qu'il va devoir taper dans chaque petite maison. Là, les maisons, en fait, il faut considérer que les médias sociaux alternatifs dont je vais parler, ce sont des logiciels libres. Et du coup, on peut les récupérer comme on veut et on peut les installer où on veut. Et du coup, libre à chacun de l'installer par exemple sur un petit ordinateur qu'il met dans sa maison. Donc à ce moment-là, on parle d'auto-hébergement ou même d'instance mono-utilisateur. C'est-à-dire qu'en fait, ça va être comme si un média social avec un seul utilisateur dessus. Ou bon voilà, on peut avoir un administrateur système dans une association comme ce qui se passe chez Framasoft, qui va maintenir une instance avec des centaines voire des milliers d'utilisateurs. Dans ce cas-là, ça fonctionne bien si on parle de logiciels par exemple des Framapad ou alors des par exemple du partage de fichiers parce que ben voilà, on peut faire ça au niveau local, mais vous comprenez bien que là, si on parle de médias sociaux et qu'il y a de la qu'on veut communiquer réellement, ça va pas, parce que là par exemple voilà, les chatons en bas à gauche là, ils vont se sentir un petit peu seuls, ça va pas aller. C'est pour ça qu'on va rajouter quelques petites choses. On parle de langage, donc c'est la troisième partie. On parle de langage parce que voilà, on va faire en sorte que les petites maisons, donc les instances de ces logiciels, puissent communiquer ensemble pour, par exemple, que voilà, un utilisateur sur le village, par exemple, Framapiaf, puisse communiquer avec un autre utilisateur qui n'est pas dans le même village, qui est sur, par exemple, le village sur l'instance de Theta Neutral. Et donc voilà, comme en fait les deux villages sont fédérés, et ben il va y avoir, ça va permettre la communication entre utilisateurs qui appartiennent à des instances différentes. Là où c'est intéressant, c'est que, étant donné que ce sont des logiciels open source, enfin, et surtout libres, donc on va pouvoir modifier comme on veut les sources, les adapter en fonction du besoin des utilisateurs, et bien chacun va pouvoir un petit peu bidouiller comme il veut le logiciel. Alors là, le petit logo qu'on a là, c'est Mastodon, donc c'est une alternative à Twitter, donc libre, et qui propose sur le principe de fédération. Donc voilà, les gens peuvent bidouiller Mastodon comme ce qu'on voit par exemple sur l'instance Mastodon de Framasoft, par exemple, c'est pas les mêmes couleurs parce que ça correspond un peu plus à leur charte graphique. Ou alors sur d'autres instances, ça va. Sur Mastodon par exemple, il y a une limite de 500 caractères par poste, et bien d'autres instances vont étendre cette limite parce qu'ils trouvent que c'est un peu contraignant, etc. Et là où ça va être encore plus intéressant, c'est que au final, étant donné que là les traits qui passent là, c'est tous les traits dans l'ensemble du schéma, en fait, c'est des messages qui passent à travers un certain protocole. Il faut vous imaginer que c'est comme si il y a des villages qui sont très indépendants les uns des autres, mais qui arrivent à communiquer avec une sorte d'espéranto qu'ils ont en commun. Donc rien ne les empêche, quand ils sont entre eux, de parler un petit peu dans leur langue. Mais voilà, quand ils veulent communiquer avec d'autres personnes qui vivent dans d'autres villages, et ben voilà, ils essayent d'utiliser un langage un peu commun à tout le monde. Donc c'est exactement ce qui se passe ici. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir donc là des logiciels Mastodon que je présentais, mais rien n'oblige en fait, du moment qu'ils respectent ce langage, rien nous oblige à utiliser Mastodon. On peut très bien utiliser d'autres logiciels, comme c'est le cas. Donc là, j'ai présenté deux logiciels qui sont totalement différents de Mastodon. Il y en a un, c'est pour diffuser de la musique, et un autre, c'est pour diffuser des vidéos. Et on va pouvoir avoir une intégration parfaite. Pour vous montrer... Alors ça, c'est une vidéo que j'ai récupérée, qui a réalisé un développeur du coup de ce logiciel qui permet de partager des vidéos dont je parlais à l'instant, qui s'appelle PeerTube, donc qui est financé principalement par Framasoft en ce moment. Et ce logiciel, il implémente ActivityPub. Et donc là, on va voir rapidement. Donc on a non, on le voit pas du tout, mais je vais décrire. Donc là, en fait, faut imaginer la capture d'écran, elle se fait du coup sur un navigateur avec deux onglets ouverts. Il y a le premier qui va représenter un utilisateur qui s'appelle ChocoBuzz, qui va utiliser le logiciel, qui est créateur de contenu, qui va utiliser le logiciel PeerTube. Et il y a un autre onglet qu'on ne voit pas pour l'instant, qui est le logiciel Mastodon, donc alternative à Twitter. Donc là, c'est un certain Joe qui va communiquer à travers ce média social. On a Joe qui utilise Mastodon, et là, en fait, on vient de voir un petit peu. Il a cherché dans une barre de recherche à gauche le nom d'utilisateur ChocoBuzz sur l'instance de PeerTube, donc une instance qui a absolument rien à voir avec Mastodon. Donc voilà, il trouve, hop, et voilà, il va pouvoir s'abonner comme si c'était un utilisateur du même réseau social. Donc voilà, donc là c'est on repart sur ChocoBuzz, qui est créateur de contenu, qui lui va mettre en place une vidéo sur PeerTube. Donc voilà, il la met en place, tout va bien. Et de l'autre côté, on a notre Joe, en fait, qui voit apparaître, je vous montre du doigt, parce qu'on ne voit pas très bien, ici, donc, qui voit apparaître la notification, comme quoi la vidéo de ChocoBuzz, bim, elle vient de sortir. Il n'a même pas eu besoin de se... Il n'a même pas besoin de se connecter sur PeerTube pour voir l'information. Hop, et donc voilà, il voit la vidéo et il peut même la lire en fait directement depuis Mastodon et tout ça. Et là, hop, il peut même, donc là on voit, il a liké la vidéo et là il met un commentaire, ah ouais, trop cool, c'est génial, continue. Et donc si on revient sur ChocoBuzz qui est créateur de contenu, qui va voir en fait sa vidéo, en fait il va voir le commentaire de Joe sur juste en dessous de sa vidéo, en fait comme on peut le faire sur YouTube, sauf que là en fait c'est Joe qui a commenté depuis Mastodon, et voilà, il peut même lui répondre hop, merci à toi, c'est cool. Et on voit même ici là le like qui correspond en fait à Joe qui a liké le post sur Mastodon de la vidéo. Et donc là on va revenir sur Joe qui est lui sur Mastodon, et il voit donc ChocoBuzz qui depuis PeerTube lui répond. Donc voilà, c'est là on a vraiment deux logiciels complètement différents qui arrivent à interagir de manière vraiment transparente pour l'utilisateur. Et c'est, je ne sais pas si vous imaginez le degré de badassitude de tout ça, mais là, il faut savoir que le protocole, il a été validé par le W3C. C'est un peu un gros acteur qui va valider un petit peu tous les protocoles qui se font sur Internet. Et déjà, en fait, on peut avoir ce genre de truc qui existe. Je vous laisse imaginer ce qui peut arriver d'ici les prochaines années s'il y a des gens qui se mettent un petit peu à faire des trucs avec ActivityPub. Pendant ce temps-là, sur les médias sociaux, donc voilà, c'est vraiment des médias déjà qui sont centralisés et qui sont isolés les uns des autres. Donc voilà, c'est forcément c'est moins drôle. Du coup, la création de communs, j'ai récupéré la définition sur le site lescommuns.org. Une ressource entre parenthèses bien commun, plus les interactions sociales entre parenthèses économiques, culturelles et politiques au sein de la communauté prenant soin de cette ressource. Et là, on voit bien que dans le cas d'une fédération, on a ces trois notions économiques, culturelles et politiques qui apparaissent. Parce que économique, premièrement, parce que les frais d'hébergement d'un nœud Mastodon, donc d'une instance, en fait, va être assumés uniquement par celui qui gère l'instance. On ne va pas être dans le cas d'une grosse instance, genre Facebook, qui doit assumer des coûts très très chers pour faire tourner leur serveur. Donc là, ça va être complètement distribué. Ce qui permet notamment à un développeur de mettre en place une solution très rapidement. Moi par exemple, voilà, je suis développeur web, j'ai une bonne idée, j'ai envie de la faire partager aux autres, mais voilà, j'ai pas forcément beaucoup d'argent. J'ai proposé mon idée, et puis ça plaît aux gens, et ben les gens vont récupérer le logiciel, l'installer sur d'autres instances, et ça va être le coût de l'hébergement va être distribué. On a aussi les contenus, la notion de culture. Alors sur Mastodon par exemple, c'est des contenus surtout textuels, on aura droit par exemple, il y a un truc qu'on fait habituellement, c'est les mercredis fiction par exemple, où on va tous les mercredis en fait, tous ceux qui vont poster une fiction comme ça en 500 caractères, et donc voilà, c'est une micro œuvre littéraire. On a aussi, par exemple, des personnes qui postent des poèmes, par exemple, sur Mastodon. Au niveau des musiques, on a, par exemple, Funkwave, donc qui est un logiciel fédéré qui permet de partager de la musique. Et voilà, on a aussi des vidéos, donc comme vous avez pu le voir, avec Peertube. On a aussi des images. Donc ça, on n'a pas encore de logiciels qui tournent, mais il y a quelques bêtas qui commencent à se lancer qui se veulent être des alternatives à Instagram par exemple. Et politique, parce que en fait la politique de l'instance se fait au niveau la politique du média social se fait au niveau de l'instance, c'est-à-dire que sur Facebook, en fait, quand vous allez sur Facebook, ben voilà, vous acceptez les conditions générales d'utilisation de Facebook, que bien sûr chacun ici a lu en entier. Et voilà, vous n'avez pas le choix en fait, si vous allez sur Facebook, vous devez forcément accepter les conditions générales d'utilisation. C'est pas le cas dans un réseau fédéré où en fait l'administrateur système il peut dire moi mes conditions d'utilisation c'est ça. Ça peut être, je veux pas avoir de chat sur mon instance Mastodon. Et ben voilà, ça ne me regarde que lui. Je mets du coup un autocollant WeMakePorn parce que en fait, il y a un exemple vraiment absolument typique de cette notion de politique, c'est que il y a quelques mois, en fait, il y a un réseau de prostituées qui utilisait des médias sociaux pour communiquer sur leur métier et tout ça, peut-être se soutenir, des choses comme ça. Et en fait, il y a environ 2 mois, il y a Trump qui a voté une nouvelle loi concernant qui réprimait un petit peu le métier de la prostitution et qui avait un impact notamment sur la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Et donc ce qui allait venir après cette loi, c'est que Facebook, Twitter devraient un petit peu censurer tous les contenus qui parlent de prostitution. Et donc ce réseau de personnes-là, était quand même vachement bien embêté. Et du coup, en fait, elles ont monté une instance Mastodon. Et étant donné que les conditions d'utilisation se font au niveau de l'instance, là en fait on a un mini extrait des conditions d'utilisation. Voilà, ici on va parler de métier de la prostitution due aux récentes lois de Trump, machin. On a besoin de monter ça. C'est en fait, je crois que c'est pour moi l'exemple. Qui ne peut pas plus correspondre à la signification du we make porn. C'est vous voulez censurer parce que vous aimez pas le porno, on s'en fout, on va faire notre truc dans notre coin et on va faire ce qu'on a envie parce que c'est pas à vous de dicter nos lois. Pour finir, différents projets fédérés. Au niveau du microblogging, on a. Microblogging, du coup, c'est comme Twitter. On a Mastodon ou Pléroma, c'est une sorte de Mastodon mais plus léger. Pour la musique, donc on a Funkwave. Ça, c'est Funkwave. Je sais pas si certains d'entre nous ont utilisé Groove Shark dans. Feu Groove Shark quand il existait. En fait, c'est. C'est un mec qui aimait beaucoup Groove Shark, qui a été très très triste au moment où Groove Shark était un site de partage de musique, a dû fermer pour des questions des endroits. Et du coup, il a créé Funkwave pour. C'est un peu un site pour les. Peut-être un petit peu pour les DJ, pour qu'ils puissent un petit peu partager des chansons, et c'est du coup c'est totalement fédéré. On peut mettre un peu en plus une instance Groove Shark au niveau de sa maison par exemple. Donc Peertube aussi pour partager des vidéos de manière fédérée, des images. Alors là on a j'ai pas encore de nom concret ni de logo, mais donc c'est quelqu'un sur Mastodon qui est en train de monter une sorte d'Instagram fédéré, mais pour l'instant il essaie de faire beaucoup de teasing et il dévoile rien du tout. Au niveau des blogs, du coup ça pourrait être super intéressant parce que par exemple je reviens de vacances, j'ai envie de partager des photos, et ben si je les partage sur mon blog, et ben voilà, elles sont dans mon espace personnel. Et il y a des blogs fédérés qui commencent à se mettre en place, notamment il y a Plume, il y a aussi un plugin de WordPress qui existe pour fédérer les contenus de nos posts sur WordPress. Et enfin, du coup, pour finir, ça c'est un projet du coup que j'ai mené la semaine dernière avec un ami à moi qui permet en fait d'agréger des contenus qui proviennent de plateformes centralisées, par exemple qui proviennent de qui permettent d'agréger des contenus qui proviennent de plateformes centralisées. Comme par exemple, vous avez un groupe de danse sur Facebook, et pour vous, le groupe de danse, peut-être qu'ils connaissent pas très bien les alternatives et tout ça. Ils ont que sur Facebook, ils ont un groupe Facebook, Mais vous avez quand même envie de participer à la vie de ce groupe de danse, tout ça. Comment vous allez faire? Vous pouvez aller sur Mastodon et vous abonner via Presto sur des groupes publics, sur Facebook, sur Twitter ou sur différentes autres plateformes centralisées. Et je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.